journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, bienvenue dans votre émission, l'émission où vous avez la parole. Pour participer en direct, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, dans le JDA, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne, c'est vous qui faites le sommaire. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous aurons un invité spécial, Adraman Diarra, il est président du bureau exécutif national de la jeunesse URD. L'URD, c'est l'Union pour la République et la démocratie de Soumaïla Cissé, homme politique malien, lequel a annoncé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle. Il nous dira, monsieur Diarra, ce qui motive cette troisième candidature. Je rappelle le numéro pour participer, 00 33 1 55 07 58 00. Avant de prendre vos commentaires en direct et d'écouter le répondeur, nous accueillons dans ce studio Mandilé Pofou. C'est moi qui suis intimidé, Mandilé, tu vois. Notre stagiaire qui effectue son dernier jour à la radio. Bonjour Mandilé.
Bonjour Stéphanie.
Comment vas-tu? Tu n'es pas trop triste de partir?
Non.
Je suis contente de retourner aux États-Unis. Mandilé est une stagiaire qui fait ses études aux États-Unis, qui est de nationalité zimbabwéenne. Voilà, tu as suivi l'actualité africaine. Tu t'es aussi occupée des messages des auditeurs durant ces trois mois. Alors, quel souvenir garderas-tu de ce répondeur ou de ton stage en général?
Ben, je crois que les auditeurs sont très intelligents et je comprends maintenant le pouvoir de la radio d'influencer les gens et de changer le monde un peu. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup et merci de la part des auditeurs, hein, ils ont entendu. Hein. Merci beaucoup Mandilé d'avoir été avec nous, tu as aussi apporté beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, voilà, un autre point de vue, c'est toujours intéressant de voir des gens qui viennent d'ailleurs. Merci beaucoup Mandilé, belle et longue route à toi.
Merci, au revoir.
Au revoir Mandilé, et tout de suite, du coup, vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour aux auditeurs du JDA, bonjour Madame Hartmann, c'est le frère Babando et je voulais dénoncer un peu la tuerie, l'étudiant qui est mort sous les balles de la police sénégalaise, police d'État, police de Macky Sall. Au même moment, M. Macky Sall dénonçait les victimes palestiniennes tuées par l'armée israélienne. Donc, un étudiant a été tué lors des manifestations pour réclamer leur bourse. On sait bien qu'en Afrique, les étudiants comptent sur leur bourse pour vivre. On le sait bien. C'est pas comme les étudiants de France où ils peuvent trouver un boulot ou quelque chose, un boulot d'étudiant ou quelque chose. Vous voyez, Macky Sall, une heure après la mort de ce jeune étudiant de 25 ans et père de famille en plus, a débloqué tout de suite l'argent pour payer les bourses. Comment on peut expliquer ça? Il fallait la mort d'un homme, d'un père de famille pour débloquer des bourses pour les étudiants. Moi, je suis sénégalais, je sais ce qui se passe dans les universités. Les étudiants n'ont pas de soutien, ils comptent seulement sur ça pour vivre. Je dénonce fortement la gestion du pays, la gestion du Sénégal par ce président, le président Macky Sall. Et j'invite tous les Sénégalais à se mobiliser pour tout faire pour que les choses changent. Parce que ça ne peut pas continuer. Le Sénégal est méconnaissable maintenant. Le Sénégal, moi, je n'arrive pas à comprendre. Le Sénégal qu'on parlait, le Sénégal liberté de presse, le Sénégal la démocratie, le Sénégal est devenu, moi, je n'ai pas les mots, je ne sais pas comment qualifier. Je vous remercie et bonne journée.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1. Africa.
Merci à tous pour vos messages. Une dernière fois, hein, merci encore à Mandilé Pofou. Avant de commencer la libre antenne, nous recevons sans plus tarder dans ce journal des auditeurs Issoufou Ouattara, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Vous êtes président de la Chambre régionale de commerce, je crois, en Côte d'Ivoire, et plus précisément de la région de Zanzan, c'est bien ça?
Tout à fait, du district du Zanzan.
Voilà. Et vous aviez une annonce à faire à nos éditeurs dans le cadre de la semaine de Kroubi, un événement qui a lieu ce week-end, je crois?
Non, c'est en juin. En juin, c'est du 26 au 29 juin. Merci à tous les auditeurs de Africa numéro 1 et puis à vous également. Très rapidement, la semaine de Kroubi a lieu, je confirme, dans le mois de juin à venir. Donc, dans un mois pratiquement. Ce n'est pas la semaine prochaine. Il est important que pour les auditeurs qui donc, sont au niveau de la diaspora et tout autre entrepreneur qui sont intéressés de pouvoir nous contacter. Nous avons un contact local qui qui est joignable au 06 65 12 07 58 au niveau de la France, qui est un point focal, pour donc répercuter les informations au niveau de la Côte d'Ivoire en termes de pouvoir participer à cet événement économique, culturel et touristique.
Voilà, la semaine de Kroubi arrive. La semaine de Kroubi vise à développer justement sur tous les plans la région de Zanzan. Je redonne donc le contact, Monsieur Ouattara, si des auditeurs, notamment des ressortissants de cette région qui sont dans la diaspora, souhaitent participer à cet événement qui se tiendra en juin prochain, vous pouvez contacter le 06 65 12 07 58. Merci beaucoup Issoufou Ouattara.
Merci. C'est pas seulement les ressortissants de la zone, c'est tous les opérateurs économiques intéressés pour l'événement. Puisque nous fédérons, nous n'avons pas de discrimination ou de sélection particulière à faire. Nous sommes ensemble et nous vivons ensemble.
C'est parfait, Monsieur Ouattara. Merci beaucoup d'avoir ouvert cette libre antenne. Voilà, on a quelques messages parfois à faire passer. Voilà, on compte beaucoup sur la diaspora. Et c'est important aussi, voilà, ce genre de forum, peut-être pour développer des régions. Merci encore, Issoufou Ouattara. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre régionale de commerce du district de Zanzan. Bonne journée à vous. On commence tout de suite cette libre antenne. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai une autre annonce à faire. Une annonce aussi importante, ça concerne Rossi Mukendi, qui avait été tué à Kinshasa le 25 février dernier. Son corps a enfin été rendu à la famille. Une messe d'action de grâce aura lieu à Kinshasa et une messe d'action de grâce aura lieu également ici en France le 19 mai. C'est demain à 19h à la paroisse Sainte-Cécile. C'est à Épinay-sur-Seine, un hommage à Rossi Mukendi. Demain, 19h, paroisse Saint-Cécile à Épinay-sur-Seine. Je remettrai l'info sur la page du JDA si cela vous intéresse. Voilà. Rossi Mukendi, je rappelle qu'il a été tué par les forces de l'ordre à Kinshasa le 25 février dernier. Et trois mois après, sa famille récupère enfin son corps. D'ailleurs, nous commençons sans plus tarder la libre antenne. Et nous accueillons pour cela Abdramane Diarra. Bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Merci d'être venu jusqu'à
Merci
nous.
Merci à vous.
Je rappelle, vous êtes président du Bureau exécutif national de la jeunesse URD. L'URD, c'est l'Union pour la République et la démocratie, parti de Soumaïla Cissé, principal chef de l'opposition au Mali, dirons-nous. Abdramane Diarra, poser une petite question avant d'écouter les auditeurs, parce que c'est la libre antenne, vous savez, on ne parlera pas que du Mali.
Okay.
Une petite question quand même sur Soumaïla Cissé, qui a été investi par l'URD au stade du 26 mars, dimanche dernier, je crois.
Samedi,
merci de la rectification. Le parti pour l'élection présidentielle de juillet prochain, c'est sa troisième candidature. Est-ce qu'on peut dire que la troisième sera la bonne? Qu'est-ce qui vous dit que la troisième sera la bonne?
Voilà. Je vais finir par vous dire si la troisième sera la bonne ou pas. Mais pour commencer, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez. Je vous rappelle que Soumaïla Cissé est le président de l'Union pour la République et la démocratie, l'URD. Il est aussi le chef de file de l'opposition politique au Mali. S'agissant de son investiture, je pense que l'investiture a eu lieu en trois phases. Dans un premier temps, il y a un certain nombre de partis politiques et d'associations de la société civile qui ont sollicité la candidature de l'honorable Soumaïla Cissé. Ensuite, le vendredi 11 mai dernier, le parti a investi Soumaïla à travers une activité statutaire. Il y a une conférence d'investiture prévue
dans
le
président, le parti dont il est président. D'accord, voilà.
Oui, ben, nous sommes en démocratie. Le président du parti n'est pas forcément le candidat. Chez nous, le processus, il est participatif, il est inclusif. C'est l'ensemble des militants à travers les sections du parti, les sections au Mali et les sections à l'étranger qui se sont réunis en conférence le vendredi 11 mai au Palais de la Culture de Bamako et qui ont décidé que l'honorable Soumaïla Cissé soit le candidat de l'URD aux élections présidentielles.
Donc, est-ce qu'il y avait d'autres candidats?
À l'unanimité, les sections ont demandé la candidature, ont sollicité la candidature de Soumaïla.
La candidature de Soumaïla Cissé pour représenter l'URD semble évidente, il l'a déjà fait deux fois auparavant.
Ça c'est vendredi. Ensuite, pour comprendre que Soumaïla, au-delà de l'URD, est le candidat de beaucoup de Maliens, de beaucoup d'acteurs politiques. C'est pourquoi, le samedi 12 mai dernier, dans le plus grand stade du Mali, le stade du 26 mars à Bamako, l'URD et ses alliés, la plateforme pour l'alternance et les changements, dont le président du parrainage, Tchébile Dramé, et d'autres présidents de partis politiques, et les associations de la société civile comme Ante Abana, Debout sur les remparts, le CDR de Rasbach, le chroniqueur, était présent. On investit devant une foule.
Rasbach soutient Soumaïla Cissé.
Rasbach soutient.
Beaucoup étaient présents. Modibo Sidibé était présent aussi. Rasbach... Modibo Sidibé est candidat.
Modibo Sidibé voilà. est candidat. Modibo Sidibé n'était pas présent au stade du 26 mars.
D'accord, je pensais.
Rasbach était présent. Le CDR était présent. Mais pour le moment, ils soutiennent l'alternance. Et ils pensent que l'alternance, c'est avec les candidats de l'opposition. D'accord. Donc, ils étaient à l'investiture de Soumaïla Cissé. C'était près devant une foule de plus de 100 000 personnes que cette investiture a eu lieu.
Il y a bataille de chiffres, hein, parce qu'apparemment, le stade du 26 mars ne peut accueillir que 50 000 personnes.
Non,
entre 50 000 et 80
000. Sur les papiers, les places assises, c'est 60 000 personnes.
Ah.
Bon, si vous avez vu les images, donc, parce que les faits sont têtus, si vous avez vu les images, toutes les places assises étaient occupées, la pelouse était occupée, et jusqu'à la fin de l'événement, il y avait beaucoup de Maliens qui étaient vraiment, qui observaient
alors,
la queue dehors.
On va avancer, monsieur Diarra, je vous taquinais sur la candidature, ce qui me semblait
donc,
évident.
Donc,
que
je pense que cette troisième sera la bonne. Pas parce que Soumaïla se présente la troisième fois, parce que le peuple malien a soif de changement. Et ce changement, la majorité des Maliens aujourd'hui, à travers tous les sondages dont nous disposons, souhaitent que Soumaïla incarne ce changement et que les élections seront l'occasion pour les Maliens de confier le pouvoir à Soumaïla Cissé.
Et donc, si les auditeurs ont des questions à vous poser, qu'ils composent dès maintenant le 01 55 07 58 00. On reviendra sûrement sur cette investiture avec Monsieur Diaby dans quelques instants. On va commencer la libre antenne, Monsieur Diarra, en se rendant du côté de la RD Congo, retrouver Kevin. Kevin, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les visiteurs et à votre super équipe.
Bonjour Kevin, oui, mettez votre casque si vous n'entendez pas, vous pouvez régler le son sur le côté, sinon peut-être que notre réalisateur va vous aider. Kevin, vous vouliez revenir, vous êtes où en RD Congo, Kevin ?
Oui, je suis à Lubumbashi, précisément à Lubumbashi, mais je voulais intervenir pour le Burundi.
Vous êtes à l'est, donc plutôt du côté du Katanga à Lubumbashi. Alors oui, vous vouliez parler du Burundi. Hein. Les Burundais étaient appelés aux urnes, hein, je crois, hier pour un référendum constitutionnel, un référendum qui pourrait permettre à Pierre Nkurunziza, le président, de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur sur le Burundi ?
Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est surtout cette loi qui va permettre à M. Burundi de briguer un mandat jusqu'en 2034. Je voulais m'exprimer d'une façon détestable pour ces pauvres Burundais qui ont voté hier pour une révision constitutionnelle qui pourrait permettre à M. Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. En tout cas, c'est très déplorable pour nos dirigeants africains qui voient le pouvoir comme un champ. En fait, est-ce qu'au Burundi, il n'y a que le seul Pierre Nkurunziza qui est le mieux placé pour diriger ce pays, un pays qui a plus de 26 partis politiques? Il n'y a pas un ressortissant qui peut diriger ce pays. C'est vraiment dommage. J'ai été beaucoup frappé pour cette information.
Ouais. En effet, hein, beaucoup frappé. Est-ce que ça vous inquiète pour votre pays, la RD Congo ? C'est pas le seul qui a modifié dernièrement, c'est la constitution dans la sous-région, dans les Grands Lacs. On pense à Yoweri Museveni il y a quelques temps, Paul Kagame, maintenant Pierre Nkurunziza. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence ?
Ça m'inquiète totalement que mon président peut aussi emboîter les pas. Ça m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète vraiment. Je ne sais même pas quoi dire de plus.
Mais vous l'avez dit, Kevin. Merci de vous être inscrit sur notre page Facebook. Et bonne journée à Lubumbashi, mon cher Kevin. On salue d'ailleurs tous ceux qui sont du côté du Katanga, particulièrement notre ancien coordinateur, mais qui est toujours dans nos cœurs, Guy Kalenda. Merci beaucoup, Kevin. On continue. Peut-être une... Excuse-moi, monsieur Diarra. Je demande aux Maliens qui sont en ligne de patienter. On va peut-être les prendre plutôt vers la fin. Une réaction sur ce qui se passe au Burundi. On a vu la crise arriver. Elle s'est installée. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent les atteintes, justement, les violations aux droits humains. Ça vous inquiète, ce qui se passe dans cette zone-là de l'Afrique ?
Ça nous inquiète et ça nous interpelle tous. En tant que démocrate, en tant que républicain, je pense que la Constitution est la loi fondamentale de nos États. Il faudrait que les politiques, les présidents en exercice, respectent cette Constitution-là. Parce que la Constitution, c'est tout ce que le peuple détient comme pouvoir pour réguler les autres pouvoirs. Et si, je viens de le dire par rapport au Mali, nous pensons que l'alternance et le changement pourra apporter la solution aux crises multiformes que notre pays rencontre aujourd'hui. Je pense qu'au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a succédé à d'autres. Je prends un ancien président du Burundi, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect.
Qui est du côté du Mali, justement.
Pierre Bouyoya, qui est impliqué depuis 2012 au premier chef à la résolution de la crise au Mali, et qui est d'un commerce très agréable, qui est une référence, qui est un modèle, un exemple vraiment que les autres doivent suivre. Maintenant, Pierre Nkurunziza, au terme de son mandat, s'il veut changer la constitution pendant que le peuple s'y oppose, je pense que cela n'augure vraiment pas d'un bon avenir pour le pays. Parce que les crises post-électorales que nous voyons dans les pays naissent des volontés des présidents sortants de vouloir se maintenir en tripatouillant, en modifiant les constitutions. Donc, vu de l'extérieur, en tant que leader politique africain, je pense que ce n'est pas une bonne chose. La constitution donne une durée au mandat présidentiel. Que le président du Burundi respecte cela.
Pour éviter les crises et les conflits, on entend bien. Merci beaucoup, monsieur Diarra. Je vous avais prévenu, le temps passe vite. Il nous reste à peine 14 minutes et les auditeurs sont nombreux. Alors, on va écouter Paul qui voudrait parler un peu de la RD Congo. Et puis ensuite, on donnera la parole. Je pense qu'il y a quelques Maliens qui veulent vous poser des questions quand je vois les patronymes qui s'affichent sur le standard. Mais on va parler un peu de la RD Congo avant cela avec Paul. Paul, bonjour.
Oui, allô, bonjour Madame Stéphanie et bonjour tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Aujourd'hui, je me permets de vous appeler pour dénoncer le jeu obscur de M. Kabila, l'ex-président, maintenu illégalement au pouvoir et son opposition accompagnatrice. Aujourd'hui, M. Mouzitou, sur le chaîne des autres ondes de radio africain, nous a dit que les élections ne seront pas tenues cette année. Donc, vraiment, mes très chers compatriotes, nous avons beau crier que M. Kabila n'a pas envie de laisser le pouvoir. M. Kabila est venu au pouvoir par des armes. Et je pense qu'il est maintenant temps que nous, de la diaspora congolaise, nous puissions commencer des actions fortes. Pour que nous puissions dire au peuple congolais qui est sur place que M. Kabila n'a pas envie de laisser le pays. Voilà, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces problèmes d'Ebola. Tant que le pays est mal géré, je pense qu'il y aura toujours de la saleté partout et ça va nous créer plusieurs maladies. Il y a Ebola au niveau de l'Équateur, il y a le choléra au niveau de Kinshasa, parce que le pays est mal géré. Et si nous maintenons ces groupes d'individus toujours à la tête de notre pays, nous aurons toujours des situations compliquées et le peuple congolais ne cessera pas de mourir. On nous tue par des armes, on nous tue par la maladie, donc je ne sais pas comment dire. Peuple congolais, il est temps qu'on s'élève. Liberté ne se sert pas dans un plat en or. Merci.
Merci à vous, Paul. Merci beaucoup. Effectivement, vous êtes nombreux à vous inquiéter sur cette situation en RD Congo. On rappelle que bien avant cette épidémie d'Ebola, d'ailleurs, la situation humanitaire était qualifiée de catastrophique, par les Nations Unies. Je dois vous lire aussi de ce message de Ntinou Wene qui nous envoie sur la boîte jda@africain.com. Il dit « Profitant de votre tribune, vous serez gré de lire ces quelques mots. » Afin que tout le monde sache que tout moyen est bon quand il faut retarder le processus électoral en RD Congo. Qu'est-ce qu'ils sont malins, les parrains de Kanembe Hippolyte, dit Joseph Kabila, retarder le processus par tous les moyens, tuerie, viol des femmes, sans oublier des Kamuna Tsapou. Alors à qui le tour? C'est la bombe biologique Ebola maintenant qui a été invitée, nous dit Ntinou Wene. Ntinou Wene qui a également envoyé un message pour dénoncer, nous dit-il, la candidature de Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. On pourra peut-être y revenir dans quelques temps. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, on va essayer. Si vous avez des questions claires, je sais que Diaby est arrivé en premier. Si vous avez des chers auditeurs qui m'entendaient au standard, Diaby, Diakité, Manjou, Mamadou, n'hésitez pas à formuler rapidement votre question si vous souhaitez que M. Diarra y réponde tout aussi rapidement. On commence avec Diaby, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Diaby, qui revient tout juste du Mali d'ailleurs.
Exactement. Moi, je vais juste poser une question à M. Diarra.
Allez-y.
Est-ce que les Maliens qui n'ont pas de carte NINA, ils vont voter comment? Parce que le gouvernement, moi j'ai dit à Bamako, ils sont en train de tripouiller. Tous qui n'ont pas de carte NINA, est-ce qu'ils peuvent voter avec des cartes NANIA nationales?
Alors, on va rester sur la question, voilà. Diaby. Alors.
Merci Stéphanie.
Monsieur Diarra, vous avez une idée? Si on n'a pas de carte NINA, comment on fait pour voter en juillet prochain?
Est-ce que... Il y a eu une révision de la loi électorale qui parle de nouvelles cartes électorales qui seraient en cours de conception.
Ouais.
Au cas où ces cartes électorales seront prêtes, les électeurs voteront avec ces cartes électorales. S'il y a des problèmes dans la confection et la distribution de ces cartes électorales, les Maliens vont voter avec les cartes NINA. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas
de carte NINA,
mais pour ceux qui n'ont pas de carte NINA et qui ont été recensés, qui existent dans le fichier électoral, ils auront leur carte NINA d'ici les élections. Mais pour ceux qui n'ont pas du tout été recensés, il n'y a pas de moyen pour que ces personnes-là votent cette fois-ci aux élections présidentielles.
C'est très clair. Merci de votre réponse efficace, Monsieur Diarra. Merci, Diaby. Je vous demanderai la prochaine fois pour qui vous voterez, Diaby. Non, je vous taquine, bien sûr. Alors, je vous regarde mon standard pour savoir qui est arrivé en premier. Mamadou d'abord. C'est pas sûr qu'ils veulent parler du Dembali d'ailleurs. Mamadou, Mandjou, Diakité. Non, Mamadou, Diakité, Mandjou. C'est pour vous avertir. Mamadou, bonjour. Mamadou est plus là, d'ailleurs. Bon. Bah c'est pas mal, hein, finalement, du coup, ça nous laisse un peu plus de temps. Je vous remercie. Diakité, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Stéphanie. Bonjour à tous les auditeurs d'Africa.
Bonjour.
En fait, j'appelle... tous les Maliens ont soutenu Ubeka lors de son élection passée parce qu'on a élu Ubeka, pas pour le développement du Mali, mais pour la stabilité du Mali. Et aujourd'hui, Ubeka est là et le Mali est plus instable aujourd'hui qu'hier. Moi, je crois que je préfère un Soumaïlès qui fait 10 fois qu'un Ibeka qui est en train de faire un régime, je ne sais pas, Kayam, il se prend pour un Kayam avant ou quoi, mais nous, les Maliens, on attend Ibeka au tournant. Cette élection ne sera jamais volée. Moi, j'ai voté pour Ibeka l'année passée et cette année, je vais voter pour Soumaïlès ici. Ça, c'est sûr et certain. On en a marre de ce monsieur-là. Il n'a rien fait au Mali et le Mali n'a jamais eu un chef d'État plus pur qu'Ibeka.
C'est
un menteur. Il fait rien.
Oui, bon, on va éviter de les absenter tout longtemps. Diakité, vous avez peut-être une question pour Monsieur Diarra ? Non ?
Non, mais j'ai pas une question directe.
Non, vous êtes déjà convaincu, vous n'avez pas de question.
Oui.
C'est très clair. Merci, Diakité. Excusez-moi, Diakité, j'accélère un peu. Vous savez que toujours nos histoires de chronomètre, hein, c'est un peu pressant. Je vais pas vous. Voilà, vous avez déjà un électeur, il n'y en a pas qu'un, vous l'avez démontré tout à l'heure. Donc on va tout de suite prendre Mandjou. Mandjou, bonjour, qui a des questions, lui. Bonjour Mandjou.
Oui, bonjour madame. Et avant ma question, je veux juste, par rapport à ce qu'il vient de dire, vous êtes invité comme quoi ceux qui n'ont pas de carte NINA auront l'air d'ici les élections. Je veux dire qu'ils arrêtent déjà de mentir au peuple. Parce que c'est des gens comme ça qui mettent les désordres. Je vous rappelle, madame, je suis recensé en août 2010. Écoutez-moi, hein, août 2010. Et jusqu'au jour-là, je n'ai pas encore ma carte NINA.
Vous avez pu voter en 2013?
En 2013, j'ai voté avec mon. J'ai pas pu voter. Mais j'avais une carte électorale qui datait de 2001 ou 2002, je crois.
Ouais.
Et c'est avec cette carte-là, j'ai réussi à voter. C'était en 2002, vous vous rappelez le.
D'accord, en 2002. Non, mais est-ce que vous avez voté avec cette carte en 2013?
Bien sûr, j'ai pu.
Vous avez pu voter. J'ai mon invité qui fait des grands yeux en face, il dit non.
Non, en fait, en 2013, Mandjou.
Attendez, laissez-le finir, s'il vous plaît, monsieur Diarra. Mandjou, vous confirmez que vous avez pu voter avec votre vieille carte de 2002 en 2013?
En 2013, oui. Et ma carte NINA, comme j'ai dit, en 2010, je me suis recensé jusqu'à aujourd'hui.
Et ça, on avait bien compris. Alors,
j'ai pas de carte, j'ai pas de passion, bon. J'ai rien.
Bon, monsieur Diarra va vous répondre après. Vous aviez une question aussi, Mandjou.
Ma question est que, je veux dire, la question à cet invité, leur gourou, hein, moi je veux dire, qui lui a alloué 500 millions de CFA par an, et qui vit la précarité, la paupérisation de ce peuple, est-ce qu'il trouve normal, est-ce que c'est des messieurs à la morale de venir se présenter devant le peuple?
Vous dénoncez, il touche une prime en tant que chef de l'opposition, c'est bien ça.
Hein.
C'est très clair. Mandjou, je vais vous arrêter là parce que vous savez, il faut laisser le temps à l'invité de répondre. Alors vous voulez peut-être répondre, apparemment Mandjou a pu voter. Alors c'est vrai que ça pose du coup des questions sur le déroulement du processus. Il faudrait vérifier.
Alors pour commencer, je regrette les propos un peu déplacés de Diakité. Qui, d'ailleurs, je le remercie, qui dit qu'il va voter pour Soumaïla, mais il a parlé du président de la République d'une façon que je n'ai pas appréciée. Le président de la République du Mali mérite le respect de tous les Maliens. Et pour Mandjou, je voudrais qu'il comprenne quelque chose. En 2013, les Maliens n'ont voté qu'avec la carte NINA. Et pour cause, la carte NINA n'est pas une carte électorale en fait, c'est le numéro d'identification nationale. Mais au moment des élections en 2013, c'était le seul document qui était plus propre, donc qui a permis de voter.
Lui a dit qu'il a voté avec une vieille carte de
2002. Non, c'est pas possible. Les cartes d'électeurs d'avant n'ont pas voté en 2013. Maintenant, je connais et je regrette les problèmes que les Maliens rencontrent par rapport à l'acquisition de la carte NINA et qui cause beaucoup de problèmes, surtout aux Maliens de l'extérieur. Nous, en tant qu'opposition, nous mettons la pression nécessaire aux autorités pour que les Maliens puissent rentrer en possession de ces cartes NINA. Maintenant, nous avons demandé la carte d'électeur parce que nous avons vu que la carte NINA n'était pas une carte d'élection à la base. Donc, nous avons travaillé dans un comité d'experts dont j'étais membre, avec la majorité, l'opposition et la société civile, où nous avons convenu de faire de nouvelles cartes d'électeurs avec des critères qui vont nous permettre de contenir la fraude électorale et de permettre à beaucoup plus d'électeurs potentiels de disposer de cette carte-là pour voter, jouir de leur droit de vote. Maintenant,
il parle du statut de chef de l'opposition.
Le statut de chef de l'opposition, c'est ce que je viens de dire rapidement. En fait,
est-ce qu'on pourrait renoncer à cette prime?
Il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas une prime. Le chef de file de l'opposition, qui est l'honorable Soumaila Cissé, est venu deuxième aux élections présidentielles en 2013. Il y avait 27 candidats. Il est venu contre Ibeka. Ça veut dire que des Maliens croient, des millions de Maliens croient en l'homme et en sa vision. Ils ont voté pour lui. Il a une certaine légitimité.
Est-ce que ça justifie un statut officiel?
Oui. Son travail, c'est quoi? Le travail de l'opposition, c'est quoi? C'est de suivre l'action gouvernementale, critiquer, proposer et contrôler. Et ce travail-là, quand tu regardes la taille du gouvernement et le budget des départements ministériels, c'est des centaines de milliards. Et le chef de file de l'opposition, lui seul, doit suivre et contrôler le travail de tous les gouvernements, je pense qu'il lui faut une subvention pour le faire. Et cette subvention, c'est un budget de fonctionnement de son cabinet, de fonctionnement de salaire de ses collaborateurs, de voyages et autres. Donc vraiment, ce n'est pas une prime au chef de file de l'opposition. Et je pense que c'est minime. Le président de la République a près de 2 milliards par an de fonds de souveraineté. Ses budgets de fonctionnement. Le chef de file n'a que ce budget de fonctionnement.
On entend bien, c'est parfait. J'ai une autre petite question que je dois vous poser, puisque ça a été dit sur cette antenne cette semaine. Des auditeurs ont laissé des messages pour dire que finalement, les gens qui sont venus au stade du 26 mars, samedi dernier, ont été payés. Je me devais de poser cette question, de vous la poser. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens
Généralement, dans nos pays en Afrique, les militants payés pour venir assister à des meetings sont les militants des partis au pouvoir. Nous sommes un parti d'opposition. Je viens vous dire tout à l'heure que nous avons mobilisé plus de 100 000 personnes. Si on peut payer 100 000 personnes, c'est qu'on a de l'argent. Malheureusement, les militants sont venus parce qu'ils ont soif de changement, parce qu'ils croient à la vision, ils croient à l'homme, l'honorable Soumaïla Cissé. Ils pensent que Soumaïla Cissé, comme les Maliens aiment l'appeler Soumi, le sauveur, ils pensent qu'il peut apporter vraiment un changement positif au Mali. Ils sont venus à zéro franc.
Merci beaucoup, Monsieur Diarra, de votre réponse. Alors, il nous reste 2 minutes. On va essayer de faire très, très rapide. Blaise, rapidement, vous aviez une petite question. Bonjour, Blaise.
Oui, bonjour, madame.
Excusez-moi de vous presser.
Deux petites questions à poser.
On aura le temps pour qu'une seule, Blaise.
Oui, voilà. En fait, je voulais savoir comment il prévoit gérer le Mali. Partout en Afrique, on trouve le même problème. Il a dénoncé que les autres ont changé la constitution. Mais je pense qu'il a une bonne parole, il a une bonne vision des choses.
On aura l'occasion d'en reparler. Je ne peux pas vous parler parce qu'il reste 2 minutes. Mais une question rapide, un oui ou par non. Est-ce que si Soumaïla Cissé est élu, il va renégocier l'accord d'Alger?
Vous savez que la mise en œuvre de l'accord pose problème. Ça veut dire qu'il y a des pages à revisiter dans l'accord. Oui, bien sûr, quand Soumaïla Cissé sera élu, il l'a dit dans son discours d'investiture, il va instaurer un dialogue inclusif. Il va prendre l'accord et il va appeler à la table de négociation les acteurs maliens et même la communauté internationale pour voir pourquoi la mise en œuvre de l'accord pose problème. Les dispositions qui posent problème, la décision, elle sera inclusive et le dialogue, ils prennent le dialogue et il va revoir l'accord d'Alger.
Une dernière petite question, une réponse par oui ou par non. Vous avez dit qu'il sera élu. C'est que pour vous, d'ores et déjà, les conditions de l'élection sont... Vous êtes plutôt dans un bon sentiment concernant les conditions de l'élection.
Ce n'est pas seulement être dans un bon sentiment. C'est que l'élection est un passage obligatoire pour les Maliens. Pour la stabilité du Mali, il faut un changement de gouvernance. Pour changer la gouvernance, il faut l'alternance. Voilà, c'est pourquoi la voie autorisée par la Constitution, c'est les élections.
Merci beaucoup, Abderrahmane Diarra, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes le président du Bureau exécutif national de la jeunesse URD. C'est l'Union pour la République et la démocratie du candidat à l'élection présidentielle au Mali, Soumaïla Si c'est bon retour du côté de Bamako, monsieur Diarra, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. J'avais un autre monsieur Diarra qui avait une question à vous poser. On aura peut-être l'occasion, hein, bien sûr, d'en reparler, voire de recevoir votre candidat. Hein. N'hésitez pas à le faire venir dans ses studios. Monsieur Diarra voulait poser une question sur les cartes, qui je l'invite à laisser un message sur le répondeur. C'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup de votre participation. L'info continue, hein, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil Twitter @radio_africain pour retrouver toute l'actualité de la radio et de l'Afrique. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. En attendant, prenez soin de vous et surtout des autres à l'écoute d'Africa numéro 1.